Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sunlight Production.
Et voilà, j'arrive dans la dernière ligne droite du défi 93 jours sans sucre ajouté. Mais je dois vous avouer que je suis un peu partagé sur cette aventure. Évidemment, il y a énormément de points positifs. Je ne consomme presque plus aucun produit transformé et je pense vraiment avoir perdu le goût des choses sucrées. Mais je dois aussi me rendre à l'évidence. À ce moment de l'expérience, mon bilan est plutôt en demi-teinte. Car malgré mes efforts et ma grande volonté, je n'arrive toujours pas à en finir avec mes envies de grignotage sucré, surtout le soir. Passé 22 heures, j'ai envie de manger des fruits frais, des fruits secs, des yaourts nature ou encore du banana bread. Alors même si tous ces aliments ne contiennent aucun sucre ajouté, j'ai quand même l'impression de tricher. Tout simplement parce que l'idée de ce défi, c'est aussi et surtout de limiter ma surconsommation de sucre journalier. Et sur ce point, eh bien, j'ai pas vraiment rempli l'objectif. Mais heureusement, ce grignotage, il reste très gentil et raisonnable. Mais je dois quand même me rendre à l'évidence. Il y a des choses que je ne maîtrise pas et qui semblent plus fortes que moi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, car je compte bien faire tout mon possible durant ces 93 jours pour trouver des solutions et en finir avec ces envies de sucre en soirée. C'est la raison pour laquelle j'ai pris rendez-vous avec Manon, mon hypnothérapeute. Lors de ma première consultation avec elle, j'étais réticent à l'idée de suivre une séance d'hypnose pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, je suis prêt à franchir le pas et à essayer de nouvelles méthodes. Mon rendez-vous avec elle est dans quelques heures. Et vous savez quoi ? Vous allez venir avec moi. Salut Manon, comment ça va ?
Salut Guillaume, bah écoute, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, ça va plutôt bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'arrive presque sur la dernière ligne droite de mon défi sans sucre ajouté, avec des choses plutôt positives, des choses où j'ai réussi à trouver des solutions globalement sur 80% de choses, et puis encore les gros chantiers que j'arrive pas à venir à bout et notamment le grignotage le soir avec les produits sucrés. Où clairement, j'ai envie de sucre le soir après avoir mangé une demi-heure, 45 minutes après avoir mangé, alors que j'ai plus faim. Et ça, j'arrive toujours pas à en finir avec cette envie-là. Alors je vais grignoter des fruits, je vais grignoter des fruits secs, je vais pas du fruit naturel, mais ça reste quand même du sucre naturel, mais ça reste quand même du sucre. Du coup, je suis pas satisfait de ce défi sans sucre ajouté parce que j'arrive pas à réduire ma consommation de sucre, qu'elle soit naturelle ou ajoutée, ça reste de la consommation de sucre et j'arrive pas à la réduire encore. Et ça me pèse un petit peu. Voilà, j'ai l'impression de pas réussir ce challenge à cause de ça.
Ton objectif, comment tu le formules ? Pour toi, qu'est-ce que ce serait l'idée de réussir ton challenge ? Parce que ce qui est important dans un objectif, c'est de pouvoir bien le définir. Et là, tu me dis, j'ai l'impression de pas vraiment le réussir parce que je mange quand même du sucre, même s'il est naturel, ce qui est déjà super. Mais du coup, ce serait quoi la bonne quantité pour toi ?
Bah, en fait, mon challenge, dans le sens où il est réussi à 80%, parce que j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires, mon petit déjeuner, je sucre plus mon café. J'ai réussi à éliminer le sucre ajouté de manière assez importante. Et j'ai plus cette envie de grignoter, j'ai plus le goût du sucre. Aujourd'hui, tu me sers un café sucré, je vais limite le recracher, tu vois. J'ai plus ces envies-là de petites choses gourmandes un peu sucrées sur 80% de ma journée. Par contre, le soir, après avoir mangé, j'ai vraiment, vraiment envie de grignoter. Peut-être parce que je ne travaille plus, parce que je suis plus stimulé intellectuellement par ma journée de travail et tout, et que c'est pas le blues, mais c'est un petit peu, c'est le moment de se détendre, c'est le moment de relâcher un peu les chevaux, d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir et de passer du bon temps avec ta famille, avec tes proches, à regarder un film. Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. J'ai toujours envie de rallumer le PC, de travailler. Et si je le fais pas, parce que si je le fais, je vais me faire disputer par ma copine ou par mes proches, je vais essayer d'avoir envie de grignoter, je vais essayer d'aller chercher la stimulation à côté.
et j'arrive pas à débrancher le cerveau. Donc si vraiment je pense que ce qui ne va pas, c'est après manger l'envie de grignoter et ne pas réussir à lâcher prise.
Ok, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, le sucre naturel que tu prends le soir, c'est quelque chose qui vient combler un manque, c'est-à-dire le fait que tu n'as plus cette stimulation du travail. Parce qu'on le rappelle aussi, tu as un TDAH qui du coup fait que quand tu travailles, tu sécrètes de la dopamine et toi, c'est vraiment le truc qui te porte, quoi. C'est bien ça ?
Exactement, ouais. Je suis accro à la dopamine, donc je cherche toujours des choses pour me stimuler intellectuellement et c'est vrai que quand mon cerveau ne génère pas de la dopamine, ça me déprime, mais ça me stimule pas. Oui, c'est un sentiment de pas de tristesse, mais de mal-être peut-être en quelque sorte. Donc alors j'ai analysé ça parce que je grignotais et comme je faisais beaucoup de sport avant le confinement, avant de m'être blessé, je prenais pas de poids. C'est quelque chose. En fait, c'était pas, il y avait pas de d'effet secondaire. Vu que même au niveau du sucre, je faisais tellement de sport que j'arrivais à mon corps, il arrivait bien à le traiter. Mais c'est vrai que là, depuis que j'ai ralenti un peu la course à pied, même si là j'ai repris, je cours plus comme avant et clairement pour l'instant j'ai priorisé le travail parce que voilà, c'est important. J'ai analysé pour me dire finalement pourquoi je ressens ce besoin-là. On a fait aussi ce travail, on a discuté tous les deux, donc ça m'a un petit peu, j'ai fait l'autocritique et c'est la conclusion que j'en suis venu. Je sais pas si c'est ça vraiment, ça tu vas me le dire, si c'est peut-être ça ou pas, mais c'est moi en tout cas la conclusion à laquelle je suis parvenu.
D'accord. Et quand tu es sur le point justement de prendre des fruits secs, un deuxième dessert, une autre pomme, etc. le soir, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? C'est quoi l'émotion qui te vient ? Soit la pensée, soit l'émotion. Qu'est-ce que tu
ressens ? Il y a rien. C'est comme une envie de sucre. Il faut que en fait je.
C'est automatique.
J'ai pas faim. J'ai pas l'envie de le faire. Je vais même pas. Tu vois les fruits secs. Je crois que j'ai honte de le dire, mais je suis presque à un demi kilo par semaine de fruits secs. Tu vois. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Oui. Et puis c'est très sucré, quoi. Donc. Et j'en mange que le soir, mais c'est j'ai cette envie de sucre, quoi. C'est le sucre déclenche de la dopamine, donc moi ça me stimule, quoi. C'est réellement ça. Alors à moi c'est extrême parce que j'ai ce trouble là, mais chez monsieur et madame tout le monde c'est la même chose, mais à des proportions peut-être un peu moindres.
Oui, c'est totalement neurologique, hein. Comme tu l'as expliqué dans d'autres épisodes précédents, t'as vraiment ce sucre qui est d'ailleurs en fait une addiction qui est quelque chose qui se crée naturellement dès la naissance, en fait. C'est vraiment le nourrisson qui est attiré par le lait maternel, qui génère du sucre. Et donc, du coup, tu as un peu cette tension qui se crée entre l'apport du sucre, qui est naturel, et la sécrétion de la dopamine chez l'humain, quoi.
Et j'en ai parlé aussi avec une psychiatre spécialisée en addiction. Et effectivement, j'ai pas un sentiment de manque, j'ai pas un sentiment de dépendance, comme tu peux avoir, par exemple, chez les toxicomanes, qui vont transpirer, qui vont trembler. Qui vont vraiment, s'ils ne prennent pas leurs produits, leur état va se détériorer. Moi, je n'ai pas ça. Et avec le sucre, tu ne l'as pas. C'est pour ça que le sucre, on ne peut pas considérer le sucre comme une drogue dure, selon elle en tout cas, parce que justement, tu n'as pas cet effet de sevrage, cet effet de manque. Par contre, je vais avoir un effet plaisir, tu vois. Et c'est cet effet plaisir que je vais essayer d'aller rechercher. C'est cet effet plaisir que j'ai du mal à me dire, en fait, on n'a pas besoin. Et que réellement, j'en ai pas besoin. Donc, je me laisse un peu emporter, voilà, au gré des envies, au gré des choses, et forcément après je vais culpabiliser et du coup je vais avoir envie de reprendre un peu de sucre et vice versa, quoi.
Ouais, c'est un peu une boucle en fait sans fin dans laquelle tu es, dans le sens où tu as envie de sucre à la fin de ta journée, donc tu vas prendre du sucre, t'as cette dopamine qui est sécrétée, à la suite de ça tu te sens bien, mais tout de suite après t'as la culpabilité, et donc potentiellement en fait ça vient réalimenter ce cercle vicieux un petit peu de la compulsion, on peut l'appeler comme ça, la compulsion du sucre. Mais c'est assez intéressant parce que tu me parlais, du coup on en parlait un petit peu avant, mais même là, de l'importance de ton travail. Et tu me dis le travail c'est important et quand je travaille pas, j'ai quand même besoin d'être stimulée. Et donc du coup, cette stimulation que tu as par le travail, tu essaies de la retrouver par le sucre parce que ça te sécrète de la dopamine. Donc du coup, c'est un peu comme si tu te retrouvais face à un choix qui n'est pas vraiment un choix, en fait, c'est une alternative. C'est soit t'as le travail, soit t'as le sucre. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme autre alternative pour justement venir générer ce sentiment de bien-être, cette dopamine ? Tu vois, tu fais du sport à côté.
Ouais. Le fait déjà que je fais beaucoup de sport, je courais beaucoup, me permettait de... Tu sécrètes de l'endorphine, et l'endorphine te permet aussi de mieux répartir ta dopamine, de mieux réguler, en fait, le trouble TDAH, tout simplement, c'est un dysfonctionnement au niveau de la dopamine. C'est-à-dire que chez les gens normaux, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, mais c'est pour que tout le monde comprenne, la dopamine, elle est bien envoyée au bon moment. Et moi, en fait, c'est complètement déréglé. régler. Donc c'est voilà, il faut vraiment imaginer un contrôleur central qui va réguler tout ça. Et moi, le thermostat, il est complètement déréglé. Et donc le fait de courir beaucoup me permettait de mieux réguler cette dopamine, un peu comme avec la Ritaline, qui est un médicament qui est souvent employé pour les personnes qui sont de TDAH. Et moi, justement, le fait de courir beaucoup me permettait de me passer de Ritaline. J'étais pas sous prescription médicale par rapport à ça. Et là, c'est, mais pour vraiment générer de l'endorphine, vraiment générer toute la journée, il faut courir quand même beaucoup. C'est-à-dire que moi, je courais entre 80 et 120 km par semaine. Et là, le fait que j'ai beaucoup moins aussi de course à pied, je fais 70, entre 50 et 70 km par semaine, ce qui me permet de réguler un petit peu, mais pas comme j'en aurais besoin, fait que je suis un peu moins en... Tu vois, j'ai un peu moins de petites stratégies que j'avais trouvées pour m'aider. Mais voilà, je veux pas aussi non plus. Je suis passé une course à pied. Je veux pas courir pour courir. Je veux quand même prendre du plaisir. Je veux voilà. Donc j'essaye de faire des jugements, d'arbitrer, de doser. Donc là, j'ai tout remis à plat. Donc c'est aussi pour ça que je viens de voir. Mais c'est compliqué de pouvoir lâcher prise quoi.
Ouais, bah c'est vrai que le côté lâcher prise et contrôle, c'est toujours une dynamique qui est assez intéressante chez les personnes qui veulent arrêter une compulsion, ou en tout cas la réguler pour retrouver un certain équilibre. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée derrière la compulsion, c'est qu'il y a quelque chose qui est sorti d'un équilibre. Donc du coup, on vient essayer de rechercher à réguler ça. Et donc potentiellement, peut-être trouver d'autres solutions, conscientes ou inconscientes, on va voir ça après, mais pour voilà retrouver un peu cet équilibre. Parce que finalement... Tu me dis que quand tu travailles pendant la journée, tu ne ressens pas ce besoin pour le sucre, tu n'y penses peut-être pas. Quand tu cours, tu peux, un certain temps, tu peux arriver à réguler ta production de dopamine. Donc tu agis vraiment sur le fonctionnement de ton corps. Donc ça veut dire que quelque part, tu as déjà la capacité et les ressources nécessaires pour adresser ça. Et je ne te dis pas pour arrêter complètement le sucre ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour en être plus conscient et pour justement apporter plus d'équilibre dans cette routine dans laquelle tu es, entre guillemets, coincé pour le moment.
Ouais, et c'est exactement ça. T'as le bon mot, c'est coincé, quoi. C'est ça.
Et alors, qu'est-ce que tu ferais pour en sortir ?
Ben, je sais pas. Du coup, c'est hyper compliqué parce que c'est neurologique. Tu agis pas comme ça sur ton cerveau si tu le veux. Tu ne guéris pas de ce problème-là. Donc c'est hyper compliqué. C'est un travail peut-être sur les émotions. C'est un travail sur. Je pense que c'est le moment présent. Je pense tout le temps. J'ai tout le temps mon cerveau qui tourne. J'ai une image. Il faut imaginer une voiture qui tournerait tout le temps. Tu vois, dans ton garage, tu roules avec la voiture, tu gardes ta voiture et tu laisses le moteur allumé, la moteur à tout. Moi, c'est tout le temps ça, mon cerveau. J'ai l'impression de tout le temps avoir le moteur qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne.
Et ça fait quoi si le moteur, il s'arrête ?
Bah, j'aimerais bien, justement. Parce qu'en fait, c'est épuisant. Réellement, c'est épuisant. Donc, le sucre me permet aujourd'hui, le petit grignotage me permet de un petit peu réguler. Après, ça reste gentillet, hein. Je suis pas la personne qui va non plus manger un pot de glace tous les soirs ou un pot de Nutella. Heureusement, je vais quand même me limiter. Ça reste très gentillet. Ça va être, je vais aller chercher un yaourt. Ensuite, je vais aller chercher un petit gâteau. C'est des petits grignotages par ça. Mais c'est pas de la boulimie, ce genre de choses. Heureusement, hein. C'est juste de temps en temps. Hop, une petite piqûre, un petit morceau de chocolat. Sauf que c'est tous les 30 minutes, tu vois. Donc, en fait, le soir, je vais faire attention à ce que je mange et tout. Et je vais m'envoyer peut-être 300, 400 calories comme ça, inutiles en fait, et qui sont pas bons pour ma santé, qui sont pas bons pour moi. Mais voilà, c'est pas dramatique, hein, je tiens quand même à le préciser. Mais si je peux corriger ça, ce serait top. Et puis ça me permettrait aussi de me reposer mentalement.
Et est-ce que les soirs, est-ce que c'est des soirs où tu ne craques pas et t'as d'autres soirs où tu craques et du coup c'est genre tu craques plusieurs fois, c'est genre 30 minutes, 30 minutes, 30
ouais,
minutes,
c'est
voilà.
Comme ça.
Ou alors c'est, tu peux pas juste prendre une poignée de raisins secs, admettons,
non,
et après c'est vraiment
tant
soit
mieux pas
tu
du tout
craques,
que j'en prenne, ouais.
En gros c'est noir ou blanc.
C'est noir ou blanc,
d'accord.
Ouais, c'est clair. Et c'est rare les soirs où je craque pas. Hein.
Donc t'as vraiment ce côté d'engrenage, c'est-à-dire ouais. Une fois que tu bascules avec le premier raisin sec, on va dire, et après bah, en fait t'en reprends pendant
alors,
toute la soirée.
Je n'achète pas de gâteau, je n'achète pas de Nutella, je n'achète pas bonbons, je n'achète pas tout ça.
Oui, ça reste naturel.
C'est limite interdit chez moi parce que bon là je fais le défi sans sucre, mais même en dehors du défi sans sucre, c'est limite des aliments que je n'achète jamais parce que je sais que en fait je pourrais pas me réguler. C'est comme le chocolat. Je sais que la tablette de chocolat, c'est une tablette tous les deux jours, quoi. Tu vois, bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même ce que j'aimerais bien. En fait, ce que j'aimerais, c'est d'être comme tous ces gens qui arrivent à manger un seul carré par soir ou par jour, un seul bonbon quand ils ouvrent le sachet de bonbons. Voilà, ils vont prendre deux crêpes au Nutella et ça va s'arrêter là. J'aimerais bien être comme ça. Moi, j'y arrive pas, quoi. Parce que du coup, c'est des éléments plaisir. Ça fait plaisir aussi de temps en temps manger une crêpe au Nutella, même si c'est pas très bon pour la santé. Il y a des sales trucs, mais une de temps en temps. Voilà,
il faut savoir aussi se faire plaisir. Exactement. Et c'est comme tu disais, c'est une question de la question du contrôle et du lâcher prise est super intéressante, parce que c'est vrai que quand on a une compulsion, et là je vais parler en termes plus généraux, mais quand on a une compulsion, il y a vraiment cette tension où tu vas essayer d'avoir le contrôle de toi-même en te disant « il ne faut pas que je craque », et bam, tu craques. Du coup, bah, autant à craquer, tu vois, bah, t'y vas vraiment, hein, t'y vas franco. Du coup, tu te sens encore plus coupable. Du coup, tu te dis « bon, bah, vraiment, là, c'est bon, c'est fini, je ne craquerai plus ». Et t'as vraiment cette tension, en fait, qui s'auto-renforce, et tu crées toi-même, en tout cas ton mental, crée cet engrenage duquel il devient de plus en plus difficile de sortir à partir du moment où, avec toi-même, tu utilises ce langage de « il faut que je fasse ça »,« il faudrait que je fasse ça »,« je dois faire ça ». T'as un peu ce côté injonction que tu te mets sur toi-même, et du coup, ça te rajoute en fait de la pression dont t'as pas besoin parce que tu t'en mets déjà. Donc déjà, le fait de simplement changer la façon dont tu te parles en te disant, par exemple, je choisis de mettre en avant ma santé plutôt que de craquer pour trop de sucre, même si c'est du sucre naturel. Déjà, c'est genre, ah bah ouais, ok, en fait, je choisis juste d'être en bonne santé. Donc c'est quelque chose de bénéfique que je fais pour moi et que je m'apporte. Mmh. Au lieu de te dire, non, c'est pas bien, il faut pas que je craque. Tu vois la différence?
Ouais, bien sûr, je comprends. Mmh. Non, mais c'est important parce qu'après, tu perds confiance en toi. En fait, tu dis, ouais, ça sert à rien, j'arriverai pas, donc voilà. C'est des... Mais j'essaye un petit peu, mais bon, c'est pas ça paraît assez simple sur le papier, mais c'est pas non plus la mise en pratique est pas aussi simple.
Ouais, je comprends. Et c'est assez intéressant parce que la constitution d'une habitude, c'est Charles Duhigg qui a conceptualisé ça. C'est un neuroscientifique et un chercheur. Il explique qu'en fait, la constitution d'une habitude, c'est un élément déclencheur. Tu as ensuite la routine et après tu as la récompense. Donc, en l'occurrence, en général, on identifie la routine qu'on veut changer. Donc toi, ce serait ces grignotages intempestifs nocturnes. La récompense, du coup, bah, c'est la dopamine qui est sécrétée, cette sensation de plaisir. Et l'élément déclencheur, qu'est-ce que tu dirais que c'est pour toi ?
Bah, l'élément déclencheur, c'est le besoin de stimulation, quoi.
Mmh. Ok, ouais, c'est vraiment l'envie de sucre et le besoin de
ouais,
stimulation.
Ouais, c'est le besoin de stimulation. C'est le besoin de donner à mon cerveau un peu de dopamine, quoi.
Ok. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as tes trois éléments de cette habitude. Et donc, en fait, une fois que c'est, entre guillemets, programmé dans le cerveau, ça crée des connexions neuronales. Et littéralement, c'est des choses qu'on peut observer quand on fait un IRM, etc. Tu as vraiment des connexions qui se créent avec un chemin particulier. Mais, comme on le sait tous, il y a une neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que les connexions neuronales peuvent changer, peuvent évoluer. Elles ne partent pas, elles ne disparaissent pas, mais tu peux superposer des nouveaux circuits sur tes anciens. Donc c'est comme ça en fait que tu peux arriver à changer des habitudes, par exemple tu vois, arrêter de fumer, arrêter de grignoter, se mettre au sport, etc. Et donc à partir du moment où tu peux garder le même déclencheur, tu peux garder la même récompense, mais simplement essayer de remplacer justement cette routine. Donc en fait, il faudrait trouver peut-être quelque chose pour substituer à ça. Parce qu'en plus, si tu as besoin de stimulation, c'est pas, tu peux pas juste rester à te dire « il faut pas que je craque » et à regarder la télé, parce que potentiellement, c'est pas quelque chose qui est assez stimulant pour toi, qui occupe assez ton esprit, vu que tu as en plus ce TDAH qui te
voilà. Sauf si le film est passionnant, ou si vraiment, ouais. Bon, c'est pas souvent le cas. Et c'est pas tous les jours que t'as un... Mais si c'est pas, voilà, sinon... Et puis après, sinon, c'est sur le téléphone. Voilà, je suis aussi assez accro à mon smartphone. Forcément, ça génère de la dopamine. C'est des choses. Tout ce qui. Voilà, le fait aussi que je fais un travail qui me passionne. Moi, c'est très compliqué de faire un travail qui ne me passionne pas. Sinon, je suis profondément malheureux. Mais ça génère de la dopamine. Tu vois, c'est tout un cercle qui me rend hyper productif. Du coup, c'est pour ça que. Avec Sunday Night Production, donc la boîte de prod, on lance plein de projets. On est très, très productif. Mais c'est vrai qu'il y a la revers de la médaille. La revers de la médaille, c'est que bah, tu ne peux pas être H24, 7 sur 7, tout le temps en train de travailler, en train de penser, en train de réfléchir, en train de chercher des solutions, en train de te cultiver, parce que sinon tu t'épuises en fait. Tu vois, tu peux aller au burn-out, tu peux aller, t'es pas vivable pour les autres, pour ta, tu vois, si, tu peux pas penser qu'à toi aussi, t'es obligé d'être là pour passer un bon moment et discuter juste de la pluie et du beau temps, ce qui est pour moi très très compliqué de discuter de la pluie et du beau temps. C'est, j'ai aucun plaisir à ça, donc c'est, voilà, c'est des choses qui sont, je sais, qui plus ça va, plus ça devient handicapant. Mmh. Ouais, donc il faut que j'agisse dessus, quoi.
Et c'est un peu comme s'il y a une partie de toi, du coup, qui veut arrêter, et aussi pour compléter le challenge, forcément, le défi, et une partie de toi qui veut quand même continuer parce qu'elle y trouve un bénéfice secondaire, en fait. Bah, c'est cool, tu vois, de manger du sucre, c'est cool d'avoir de la dopamine. Donc il y a un peu ce conflit entre deux parties intérieures, c'est un peu ça, quoi.
Exactement. Donc j'espère que, j'ai pensé aussi à l'hypnose, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté la cigarette, notamment, et tout. Ça me faisait un petit peu peur parce que voilà, moi j'aime pas le lâcher prise et tout, j'aime, je suis toujours dans le contrôle et tout, donc c'est vrai que c'est quelque chose, au début j'ai besoin, voilà, que tu me rassures et tout, donc je me suis dit on va essayer peut-être sans, et puis je vois que voilà, j'aimerais ça, c'est peut-être que besoin de passer à l'étape supérieure, donc c'est pour ça aussi que je viens de voir, pour voir un petit peu si on pouvait essayer cette méthode là peut-être que ça peut fonctionner.
Ouais, totalement, justement, on va pouvoir parler d'hypnose et rentrer un petit peu dans la séance, même si quelque part elle a déjà commencé. On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'hypnose? Tu me dis, cette peur un petit peu de lâcher prise.
Non, je vois de pas avoir le contrôle sur moi, et c'est quelque chose que j'aime pas, quoi. Je suis pas quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, même les médicaments j'évite. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir la maîtrise des choses. Ça, c'est quelque chose qui est... Et donc forcément, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif pour moi, et j'ai peur de perdre le contrôle, maître de mes actions, de mes pensées. C'est quelque chose qui m'effraie, limite.
Ouais, c'est totalement normal. C'est vrai que l'hypnose, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas trop la discipline, soit ils ne connaissent pas du tout, et du coup c'est vraiment un truc un petit peu ésotérique, abstrait, conceptuel, soit à la limite, ils connaissent Mesmer et les spectacles, et là c'est assez impressionnant, des personnes qui se mettent à tomber, à dormir sur scène, à oublier leur prénom, ne plus savoir compter, etc. Donc c'est totalement normal d'avoir peur. Mais pour toi, ça, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut prendre le contrôle de ton cerveau?
Non, c'est pas ça, mais j'ai l'idée de faire un truc que j'ai pas demandé de faire, quoi. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui me déplaît, tu vois. J'irai jamais voir un spectacle d'hypnose, par exemple, c'est pas quelque chose qui m'attire.
Ouais, je comprends, c'est normal de se dire que...
Même à la télé, je trouve ça gênant, tu vois. Je vais zapper, quoi, si je vois ça.
D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te met mal à l'aise?
J'aime pas l'idée de faire quelque chose qui n'est pas de ma volonté.
Ok.
Propre. J'aime pas cette idée-là, quoi.
Alors, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que justement, ça fait partie d'un des préjugés sur l'hypnose. C'est-à-dire qu'on a cette image de l'hypnotiseur qui va dire exactement comme ça. Dors, fais la poule, mets-toi à sauter à cloche-pied pendant une heure. Et la personne le fait. Et on se dit, mais c'est incroyable quand même, c'est moi jamais je ferais ça, et du coup on se dit mais c'est fou de pouvoir prendre le contrôle sur l'esprit des gens. Et ben en fait on prend pas du tout le contrôle sur l'esprit des gens. L'hypnose, c'est déjà, comme je te l'avais dit au premier épisode qu'on a fait ensemble, c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que on a tous une vague un peu d'état modifié de conscience toutes les 90 minutes, comme quand voilà, tu lis un bouquin et t'es tellement dedans que t'en oublies ce que tu viens de lire, quand tu regardes un film et que t'as des émotions, tu te mets à pleurer, à rire, ça en fait dans un état modifié de conscience, parce que tu te mets à rire, mais en soi, enfin tu vois, c'est des personnages fictifs, c'est pas la vraie vie. Donc c'est des choses comme ça qui sont totalement naturelles. Et en fait, l'hypnose, c'est vraiment simplement des suggestions qui sont passées, mais qui sont passées à l'inconscient de la personne. Et après, c'est la personne, si elle en est pas forcément consciente, mais qui choisit de jouer le jeu ou pas, tout simplement. Et c'est vrai que cette peur de justement perdre le contrôle de soi, elle est super importante en hypnose. Mais quand tu réfléchis, finalement, avoir le contrôle, c'est comme si, tu vois, tu prenais ton poing et que tu serrais, que tu serrais, que tu serrais, et comme ça, c'est toi qui contrôles le truc. Mais quand tu lâches prise, donc tu relâches ton poing, c'est toi qui choisis de lâcher. Donc finalement, est-ce que finalement le lâcher prise ne serait pas la plus grande forme de contrôle de soi?
C'est clair, ça se tient. Après, c'est ce qui m'a fait aussi accepter le fait d'essayer cette expérience-là, parce que j'ai bien compris la différence, et il y a encore cet a priori, parce qu'un a priori, c'est quelque chose quand même qui est assez ancré. Et donc, voilà, t'as toujours cette crainte-là. Mais c'est aussi pour ça que je viens de voir. C'est aussi pour ça que j'essaye ça. Et je pense que, voilà, pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais eu, il faut essayer des choses qu'on n'a jamais faites.
Exactement.
Et c'est exactement le but de ma démarche. Et ça, j'ai bien compris. Et c'est pour ça que, voilà, je suis prêt à mettre mes a priori de côté et à tenter l'expérience. Donc comment ça va se passer alors concrètement la séance ?
Bah concrètement en fait la séance a déjà commencé. Ça c'est un peu les petits tricks. Non mais sérieusement en fait une séance d'hypnose en général ça dure environ une heure et c'est-à-dire qu'on va passer un bon 20-30 minutes à discuter d'abord de l'objectif de la personne, à discuter de ses craintes potentielles autour de l'hypnose, les a priori qu'elle a, etc. Pour voilà en fait lui expliquer que déjà c'est quelque chose qui est naturel et que c'est aussi normal d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque ben forcément vu que c'est l'inconnu, tu peux pas savoir ce que c'est. Ensuite, il y a le protocole d'hypnose qui va commencer, et ça dure environ 15-20 minutes, et puis après on débrief et voilà en fait, tout simplement. C'est okay. Très très simple comme déroulé.
Bon, bah, ça marche.
Donc super. Est-ce que tu as d'autres questions avant de commencer ?
Non, moi c'est bon, je pense qu'on a fait le tour.
Ok, moi j'aimerais bien te demander juste une chose, c'est est-ce que tu pourrais formuler en une petite phrase assez concise vraiment ton objectif, mais formuler de façon positive, c'est-à-dire ne pas dire « je veux arrêter d'eux » et quelque chose qui pourra te faire dire « je sais que j'ai réussi ». Par exemple, si tu me dis « je veux manger moins de sucre naturel le soir », c'est quoi moins, en fait ? Tu vois, le quantifier. À partir de quand tu sais que, par exemple, alors, manger une pomme, c'est OK, mais manger trois pommes, c'est pas OK ?
Ce que je pourrais quantifier, c'est après mon dessert, ouais. Une fois que j'ai pris mon dessert, je ne veux plus remanger derrière.
Okay.
Je ne sais pas si c'est assez précis, si c'est assez positif. Ou si
qu'est-ce que tu veux à la place ? Tu veux plus remanger derrière, mais qu'est-ce que tu veux ?
Je veux, une fois que j'ai mangé mon dessert le soir, je veux pouvoir passer une bonne soirée, regarder un film, me détendre et à lâcher prise, quoi.
OK. Ça marche, nickel.
Exactement, si j'ai réussi ça, waouh. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'ai commencé ce défi 93 jours avec cette juste idée en me disant, tiens, je consomme trop de sucre ajouté, j'ai tendance à avoir une petite addiction au sucre. Et puis, tu vois, finalement, ça m'a renvoyé à des choses peut-être plus profondes en moi, dans mon histoire, qui m'en remènent à là. Et tu peux pas en déroger, quoi. Il suffit pas de dire, je vais faire un challenge, puis je vais être très motivé. Parce que je sais que j'ai une grande motivation, je sais que j'y arrive et tout, et j'ai réussi pour le défi végétarien et tout, mais il y a des choses, malheureusement, la motivation, elle suffit pas, et t'as besoin de faire un vrai travail sur toi-même, et d'un accompagnement, et que tu peux pas tout le temps arriver tout seul, même si t'as un gros tempérament, ce que je pense quand même, avec le sport, avoir développé, et avec mon expérience, ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, mais bah, des fois, il faut un petit coup de pouce en plus.
Ouais, non, mais t'as totalement raison, le côté motivation et self-discipline, c'est très intéressant, et tu l'as beaucoup développé en étant entrepreneur, en étant dans le sport, avec des challenges passés, comme tu le disais, donc déjà, c'est des expériences de référence qui montrent que t'as bien réussi ça. Mais après, pour autant, en effet, c'est bien de pouvoir parler à quelqu'un ou d'externaliser certaines choses, surtout quand ça se passe au niveau inconscient, entre guillemets, ou du cerveau, où on n'a pas forcément toute la conscience, justement, de ce qui se passe dans notre tête. Donc, essayer de déjà comprendre ça et faire la démarche que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est en fait déjà un pas vers le changement. En fait, tu as déjà commencé à changer parce que tu fais cette démarche aujourd'hui. Ok, alors Guillaume, je te propose qu'on commence la séance maintenant, si ça te va. Tu peux aller boire un verre d'eau et ensuite, je te propose simplement de t'installer confortablement dans le siège. Tu verras, tu auras juste à m'écouter, à fermer les yeux et puis le voyage peut commencer.
C'est la fin de cette première partie, mais rassurez-vous, dès vendredi prochain, vous allez découvrir la suite de cet échange et vous allez assister à ma toute première séance d'hypnose. Mais en tout cas, cet échange avec Manon n'a fait que confirmer un tas de choses qui se bousculaient dans ma tête depuis plusieurs semaines. Je pense vraiment que j'ai bien fait de me tourner vers une spécialiste pour m'aider, car malheureusement, on peut pas tout le temps faire face à nos difficultés seuls et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.